Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction qui vont nous emmener cette semaine en Biélorussie, en Syrie, au Mali ou bien encore en République démocratique du Congo.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Et bien sûr au Rwanda également, après la visite d'Emmanuel Macron jeudi à Kigali pour un discours important dont je vous propose tout de suite d'écouter un extrait.
Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes ni les mains de ses soldats qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable. Penser des blessures et étouffer leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda.
Nous reviendrons bien sûr sur cette visite tout à l'heure. L'Iran va être au cœur de ce numéro d'une semaine d'actualité. Aujourd'hui, notre invitée est la sociologue et politiste Manaz Shirali. Elle vient d'écrire « Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné ». Avant de partir pour l'Iran, je vous propose une nouvelle illustration d'un monde qui change d'époque avec le rachat par le désormais géant Amazon de l'ancien géant d'Hollywood, la MGM. Vous savez, la firme dont les films commençaient toujours avec un lion rugissant. Correspondance jeudi d'Éric De Salve.
Pourquoi ce rachat des studios MGM par Amazon? Bond, James Bond, répondent les analystes américains. Avec ce studio centenaire d'Hollywood, le géant du commerce en ligne étoffe en effet considérablement le catalogue de sa plateforme Prime Video. La Metro-Goldwyn-Mayer, c'est une véritable mine d'or de 4000 classiques, autant en emporte le vent, Thelma et Louise, Rocky et la moitié des James Bond, mais aussi des séries cultes comme Fargo ou La Servante écarlate. Tout cela valait bien 8,45 milliards de dollars pour concurrencer le leader du marché Netflix et ses 208 millions d'abonnés ou l'autre poids lourd Disney+. Un catalogue mais aussi une image, celle du mythique lion rugissant d'Hollywood. En rachetant la MGM, Amazon s'offre aussi ses studios de production. Ce rachat, c'est le symbole ultime de la fin d'une ère hollywoodienne et le début d'une autre, écrit le New York Times, avec une question en filigrane. Le prochain James Bond sortira-t-il sur grand écran ou d'abord sur Prime Video pour les abonnés d'Amazon.
Une semaine d'actualité.
Merci de votre fidélité. Bonjour Manaz Shirali.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes sociologue et politiste et auteur donc de « Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné », livre publié aux éditions Les Pérégrines, « Le cri d'un peuple sur Internet ».
Le cri sur Internet, en effet.
Ça veut dire que vous avez analysé les prises de position, les cris de colère d'Iraniens et d'Iraniennes.
Les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Et pour vous dire que les réseaux sociaux n'ont pas les mêmes places dans un pays enfermé comme l'Iran que dans un pays démocratique et ouvert comme la France. Il y a toutes sortes de possibilités de s'exprimer pour les citoyens, pour les jeunes. Alors qu'en Iran, étant donné que l'espace public est complètement verrouillé, du coup, les réseaux sociaux sont devenus le seul moyen par lequel le peuple peut s'exprimer, les jeunes peuvent parler, s'échanger, communiquer entre eux. C'est pourquoi les réseaux sociaux, surtout Twitter, Instagram, Facebook, ils ont une place particulière parmi les jeunes.
En lisant votre livre, Manaz, j'ai appris que quelques 60 millions d'Iraniens sur 80 à peu près avaient Internet.
Absolument.
Étaient sur Internet.
On décompte sur Instagram et sur Facebook.
Donc tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux via Internet pèse d'un poids certain.
Absolument. On ne peut pas savoir quelle est la relation exacte entre la société et les réseaux sociaux, mais on peut dire que les réseaux sociaux sont parfaitement capables de transmettre la voix des Iraniens, de transmettre le message, de transmettre l'état d'esprit des Iraniens.
Donc vous, à une période donnée, vous avez analysé le contenu des messages.
Pendant un an et demi, j'étais complètement immergée. D'ailleurs, je le suis toujours parce que c'est une addiction maintenant pour moi. Donc, j'étais en communication avec ces jeunes. Et pour sociologue que je suis, pour moi, c'est une mine d'or d'informations et cette possibilité d'échange spontané avec les jeunes, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais eu. Et je pense que c'est une nouvelle page en sociologie pour les sociologues.
Alors, vous avez utilisé plusieurs fois le mot « jeune ». Ça veut dire que le public que vous avez analysé, que vous analysez dans ce livre « Fenêtre sur l'Iran », c'est un public jeune.
En fait, nous sommes en train de parler d'un pays dont 80% de la population a moins de 40 ans. Donc, dire les jeunes iraniens, c'est un pléonasme. Et étant donné qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, donc je me permets de les appeler les jeunes, mais bon, quand on dit les Iraniens, ils sont forcément des jeunes.
Ce qui frappe en lisant votre livre et les conclusions que vous tirez de cette étude, c'est précisément cette colère immense et répandue dans toutes les couches de la population que vous avez étudiée, en tout cas.
Absolument, une immense frustration, parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent. Et du coup, aujourd'hui, à travers ces élections, ils cherchent à montrer, à manifester leur colère contre la République islamique à la planète entière, à la communauté internationale. Ils n'ont pas les moyens de s'exprimer autrement, par le biais de boycottage des élections, ils commencent à transmettre un message. Ils veulent que la planète entière sache que la République islamique n'est pas leur choix. Ils ne veulent plus de ce régime.
Alors, on connaît Manaz Chirali depuis cette semaine, justement, la liste des candidats autorisés par le régime, c'est-à-dire par le Conseil de la Révolution, à la prochaine élection présidentielle du 18 juin prochain à Téhéran, mercredi. Tiavosh Ghazi.
La décision du Conseil a provoqué un véritable choc. En effet, non seulement l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, populaire dans les classes défavorisées, a été disqualifié, mais avec le rejet de la candidature du conservateur modéré Ali Larijani et du réformateur Essar Jahangiri, les groupes modérés ne disposent d'aucun candidat. Plusieurs sondages prévoyaient déjà une forte abstention à cause de la situation économique et l'inflation qui dépasse les 50%. De nombreux électeurs disent ne pas vouloir voter comme Behzad, un retraité de 56 ans, qui doit faire le taxi pour faire vivre sa famille, notamment son fils au chômage.
Pour dire la vérité, non, je ne voterai pas, parce que la vie a été complètement chamboulée ces 8 dernières années. Nous avons subi une forte inflation. Et moi, pourtant, je suis un ancien combattant. Mais là, le résultat de tous ces efforts, eh bien, finalement, c'est d'être dans une situation très dure. Alors, ça m'étonnerait que les gens aient voté.
Mais d'autres, comme Sayed Mehdi, un retraité de 70 ans, gardent espoir.
Je voterai pour Raisi parce qu'il est déterminé, qu'il ne lâche pas prise et qu'il corrige les choses.
La participation est devenue un enjeu crucial pour cette élection. Lors des législatives de 2020, l'abstention avait atteint les 56%, ce qui pourrait se produire de nouveau.
Manaz Chirali, qu'est-ce qu'un conservateur modéré ?
Enfin, il faut demander à Tiavosh Ghazi, parce que je ne suis pas capable de répondre.
Mais c'est un terme qu'on utilise souvent. Hein.
Oui, c'est un terme complètement faux. Ça n'existe pas déjà nulle part.
Parce qu'il y a le terme surtout conservateur, pas... réformateur. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça fait déjà des années que cette division entre conservateur et réformateur ne tient pas debout en Iran. Les Iraniens eux-mêmes, ils disent, il y a deux groupes en Iran. Les pro-régimes et les contre-régimes.
Au moins, c'est clair.
Donc, voilà. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots. Il ne faut pas créer des catégories qui n'existent pas en réalité. Ils sont tous les membres d'un régime qui est détesté par le peuple. Évidemment, entre eux, les loups se dévorent aussi. Mais on ne distingue pas entre loup modéré et loup conservateur. Ils sont tous pro-régime, donc ils ont leur intérêt dans la survie de ce régime.
Alors, une des réflexions que je me suis faite à la lecture de votre livre, Manaz, c'est comment ce régime arrive-t-il à tenir compte tenu des réactions que l'on lit sur Internet ? Que vous avez analysé.
Oui, c'est vraiment c'est ça la complexité de la situation. Et évidemment, c'est un régime qui a des manières, des moyens de réprimer le peuple. Il a deux, par exemple, armées à sa disposition. Et à chaque fois, les Iraniens sont dans la rue. Ce sont les deux armées qui répriment le peuple.
Donc, avec il y a les gardiens de la révolution
et l'armée nationale, l'armée classique du pays. Donc, avec les artilleries lourdes, évidemment. On a eu en 2019... En novembre 2019, plus de 1500 morts dans 3 jours. D'un côté, c'est une répression vraiment inhumaine qui règne sur l'Iran, mais Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas seulement la répression. Ce régime a eu des stratagèmes extrêmement minutieux et profond pour transformer la société, pour faire effondrer le lien social, la confiance entre les Iraniens, de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a un isolement, une atomisation de la société iranienne qui se voit sur les réseaux sociaux d'une manière extraordinaire. On voit à quel point les Iraniens ont du mal à faire confiance aux autres. Et ce qui fait qu'en absence de la solidarité entre le peuple, le régime pourrait tenir. Et c'est devenu, la République islamique est devenue l'un des régimes les plus solides aujourd'hui parce que ce n'est pas une dictature normale, mais c'est une dictature extrêmement minutieuse. Il sait comment détruire le lien social.
Alors, on apprend également en lisant votre livre qu'il y a on a la confirmation qu'il y a une cyberpolice qui contrôle.
Oui,
très sévèrement.
Quotidiennement, il y a 12 000, enfin, ce qu'on a pu, 12 000 cybersoldats ou trolls qui sont sur l'internet, sur les réseaux sociaux et qui nous insultent copieusement, systématiquement. Ils verrouillent l'espace pour ne pas laisser échapper la moindre réalité sociale mais pourtant, leur travail est dur parce que ce n'est pas facile. Ils ne peuvent pas contrôler l'espace virtuel.
Vous disiez que la grande majorité des Iraniens a moins de 40 ans, mais il y a aussi des jeunes, beaucoup de gens de 20 ans dont la colère est rentrée et finira sans doute un jour par exploser, vraiment.
De toute façon, c'est très difficile de contrôler l'explosion d'un peuple qui ne veut pas de ses dirigeants. Et ces jeunes qui ne trouvent pas l'avenir, qui ne trouvent pas leur place dans la société, une société qui n'arrive pas à socialiser ses nouveaux membres, c'est une situation extrêmement problématique. Jusqu'où la République islamique pourrait réprimer la colère des Iraniens, c'est une question peut-être aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, mais en tout cas, il va y avoir une forte explosion sociale.
Et rappelons que le régime des Mollahs s'est installé en 1979, le renversement du Shah d'Iran. Depuis, deux générations ont été formées par le régime.
Tout à fait. Les jeunes s'opposent à la République islamique, mais ils ne voient pas. Ils ne sont pas conscients à quel point ils ont intériorisé les valeurs de ce même régime.
Et ça, on le découvre en lisant votre livre, ça, c'est une partie intéressante. C'est vrai qu'ils sont un peu, j'allais dire, déformés.
C'est le drame de la situation actuelle.
Ouais, notamment dans le domaine de l'histoire.
Surtout. En fait, la République islamique a élevé une génération ignorante. Ce sont les jeunes qui ont très assoiffé d'apprendre, d'évoluer, d'avancer dans la connaissance, dans les connaissances du monde, parce qu'ils savent à quel point la République islamique les a privés de la connaissance.
Et c'est à l'extérieur, sur Internet, qu'ils peuvent acquérir peut-être cette connaissance.
Aujourd'hui, l'Internet permet. Il y a des nouvelles applications qui ont été lancées et à travers lesquelles on peut communiquer. Personnellement, je tiens plusieurs séances d'enseignement sur Internet à travers les applications qui s'appellent Space. Et pas plus tard qu'hier, j'avais plusieurs dizaines de jeunes dans mon espace, comme ils disent, et on parlait de l'histoire, on parlait de la politique, et ils sont assoiffés d'apprendre, ce qui n'est pas le cas des étudiants ici. Quand je parle avec eux, je les fatigue quand je parle de l'Iran, alors que quand je parle avec les jeunes iraniens, je vois à quel point ils sont enthousiastes, de telle sorte que chaque réunion dure 4-5 heures, et ils ne sont pas fatigués.
Sept jours dans le monde.
Manaz Chirali, continuons notre voyage avec cette fois une étape en Europe maintenant. Après l'interception dimanche par un chasseur de l'armée belarusse d'un avion de ligne à bord duquel se trouvait un militant de l'opposition, l'appareil effectuait la liaison Athènes-Vilnius. De Moscou, Jean-Didier Revoin nous a tout expliqué quelques heures après ce détournement.
Invoquant la présence d'explosifs à bord du vol Ryanair Athènes-Vilnius, la chasse aérienne biélorusse a dérouté l'appareil, le forçant à se poser à Minsk. À bord, pas d'explosifs, mais les autorités biélorusses ont arrêté Roman Protasevich. Cet opposant est en effet l'un des fondateurs de Nexta, une chaîne d'information indépendante sur Telegram qui est devenue l'une des principales sources d'information sur les manifestations qui ont lieu dans le pays. Si les 169 autres passagers de l'appareil ont pu rejoindre la Lituanie un peu plus tard que prévu, l'opération a provoqué la colère militaires de plusieurs pays européens. Varsovie a dénoncé un acte de terrorisme d'État. Paris a qualifié ce détournement d'inacceptable, réclamant une réponse ferme et unie des 27 membres de l'Union européenne. Londres a pour sa part averti le président biélorusse qu'il s'exposait à de graves conséquences après cette action extravagante. Quant à Svetlana Tikhanovskaya, leader de l'opposition biélorusse en exil, elle a également condamné cette opération, précisant encore qu'elle avait pris le même vol il y a une semaine.
Déroutement condamné donc parce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale, à commencer par l'Union européenne, qui a renforcé ses sanctions contre le régime biélorusse et fermé son espace aérien à ce pays soutenu par Moscou. L'Union européenne qui a demandé donc la libération du jeune opposant arrêté, Roman Protasevich, et libération également de son ami. La tension est montée d'un cran mercredi en Irak, après l'arrestation d'un haut responsable d'une organisation pro-iranienne suspectée d'avoir ordonné l'assassinat d'un militant pro-démocratie. La veille, des milliers de manifestants s'étaient réunis à Bagdad et dans les villes du sud de l'Irak pour dénoncer une vague d'assassinats de militants politiques dans le pays. En deux ans, en effet, 35 ont été tués parmi 82 tentatives au total. Selon la Commission des droits de l'homme en Irak, sans qu'aucun responsable n'ait été retrouvé, les manifestants voulaient demander justice, mais ils ont été rapidement pris dans un cycle de violence avec les forces de l'ordre. Reportage de notre correspondante à Bagdad, Lucille Wasserman.
17h, l'ambiance est encore calme sur la place Tahrir. Les manifestants se rassemblent avec dans leurs mains des photos des derniers militants assassinés. Hassan, comme beaucoup d'autres, est en colère.
Ils nous tuent et nous ne pouvons rien dire, exactement comme à l'époque de Saddam Hussein. Ils nous volent notre argent et ils tuent les Irakiens.
Ils, ce sont les groupes armés proches de l'Iran, selon ces protestataires. C'est aussi le gouvernement, incapable selon eux de retrouver les responsables de ces assassinats politiques qui se multiplient en Irak. Ces manifestants veulent demander justice ce mardi, mais très vite, des violences explosent. Des dizaines de forces de l'ordre arrivent en renfort et chargent. Qassem, un protestataire, est un témoin de la scène.
Ce qui vient de se passer, c'est que les manifestants se sont approchés du pont là-bas. Il y a eu des affrontements. J'ai vu des forces de l'ordre frapper les manifestants.
L'escalade ne s'arrête pas là. Les manifestants envoient des pierres et des cocktails Molotov. Ils attrapent un policier et le frappent à terre. Les forces de l'ordre utilisent des grenades assourdissantes pour les repousser, puis même des balles réelles. Les revendications des manifestants n'auront pas été entendues ce mardi, étouffées dans un cycle de violence.
Il y avait une élection présidentielle, oui, une élection présidentielle, mais d'un genre particulier, mercredi en Syrie. Face à Bachar el-Assad, deux candidats reconnus par le régime se présentaient pour la forme. Et devinez qui a gagné avec un score de 95,1% des voix à Beyrouth, correspondance régionale de Paul Ralifet.
Bachar el-Assad a voté avec son épouse Asma dans la ville de Douma, chef-lieu de l'ex-fief rebelle de la route orientale à l'est de Damas. Entouré d'une foule d'électeurs, il a balayé les critiques occidentales affirmant qu'elles ne valaient rien. Les médias gouvernementaux et pro-syriens ont montré des images de foules d'électeurs scandant des slogans à la gloire de Bachar el-Assad à Damas et dans d'autres régions favorables au régime qui contrôle les deux tiers du territoire. Mais dans la province méridionale de Daraa, berceau de la révolte en 2011 et reconquise par l'armée syrienne, plus d'une quarantaine de localités administrées par d'ex-rebelles ont refusé d'installer des urnes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces régions qui ont boudé le scrutin abritent près de 500 000 habitants. Les élections n'ont pas eu lieu non plus dans le dernier bastion djihadiste d'Idlib, au nord-ouest, où vivent plus de 3 millions de personnes. Dans les zones sous administration kurde du nord-est, peuplées de 3 millions de personnes aussi, le scrutin a été ignoré, à l'exception des quartiers sous contrôle gouvernemental dans les villes de Qamishli et Hasake. En comptant les 5 millions de réfugiés syriens en Turquie et au Liban, seule la moitié des 18 millions d'électeurs avaient en réalité la possibilité de participer à cette présidentielle.
Suite de cette édition d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Manaz Chirali qui a écrit « Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné », un livre publié aux éditions Les Pérégrines. Syrie, Irak et toujours l'Iran.
Toujours l'Iran, oui. Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs la politique étrangère de la République islamique qui fait rage aux Iraniens. Les Iraniens ne supportent pas, ils ne comprennent pas pourquoi leur argent, leur richesse doit être lapidée dans les pays qui n'ont rien à voir avec l'Iran. L'Iran est un pays souverain. Il n'a pas à être partout dans la région en train de fomenter toute une série de complots contre les uns et contre les autres.
On aurait pu ajouter le Liban aussi, par exemple.
Le Liban aussi. En tout cas, Téhéran est présent dans 4 autres capitales de la région. Et les Iraniens voient comme ça. Ils pensent que c'est leur argent qui est en train d'être gaspillé, alors qu'ils ont vraiment besoin de vivre. Et les premiers produits de la vie quotidienne leur manquent. Et du coup, ils voient que les missiles iraniens sont sur la tête des autres, en train d'utiliser par les autres. Tout ça, ça coûte. Et c'est envoyé gratuitement par la République islamique. Et c'est vraiment le point nodal de la situation actuelle. Ce qui gêne le plus les Iraniens, c'est la politique étrangère de la République islamique, plus qu'autre chose.
Dans les messages que vous avez analysés dans ce livre, Fenêtre sur l'Iran, on découvre que Donald Trump a été très populaire.
Et oui, en fait, c'est
On comprend pourquoi, finalement.
On comprend pourquoi l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, mais je suis étonnée que le message passe si mal ici en France quand je dis que non, Donald Trump n'était pas détesté des Iraniens et les gens l'ont adoré carrément. Bon, évidemment, à l'intérieur de la population, il y a toujours des uns qui pensent autrement que les autres. Je ne parle pas pour tous les Iraniens, mais une grande majorité d'entre eux avec qui j'ai travaillé, sur lesquels j'ai enquêté, j'ai trouvé que chez eux, Trump était vraiment le grand homme politique occidental.
Et de façon générale, Manaz, les Iraniens que vous avez décryptés en quelque sorte, sont assez sévères avec ce que l'on appelle la communauté internationale.
Absolument, surtout avec la France.
Ah tiens.
Surtout avec la France, parce qu'ils disent que la France est très pro-ayatollah. Ça fait 43 ans que la France soutient bec et ongles les ayatollahs.
Sans doute parce que l'ayatollah Khomeini était en France
là,
avant de partir
et
pour
même il y en a qui disent que la révolution de 1979 a été fomentée par les Français. Alors que là, vraiment, en tant que prof, j'ai du mal à leur faire comprendre qu'une révolution doit avoir toute autre racine et toute autre raison. Et ça n'a rien à voir avec la France. Mais je peux vous dire que personne ne m'écoute là-dessus.
Alors, il y a une chose qui est assez étrange en lisant votre livre, c'est que les Iraniens, toujours à partir des interviews, enfin des messages que vous avez décryptés sur les réseaux sociaux, semblent de plus en plus repliés sur eux-mêmes.
Et c'est un peu compréhensible parce que la situation est extrêmement difficile pour eux. Ils n'arrivent pas à vivre dans le quotidien, à gérer leur vie quotidienne. Et du coup,
vous nous rappelez d'ailleurs que depuis 1984, le régime iranien est sous le régime des sanctions.
Absolument. Ça fait des années que ces sanctions continuent. Il n'y a pas d'ouverture et les Iraniens sentent qu'il n'y a pas de communication avec leurs dirigeants. Leurs dirigeants sont complètement coupés de la société et c'est ça qui crée un verrouillage profond en Iran. Les dirigeants iraniens ne communiquent pas avec la société. Ils sont complètement éloignés de la réalité sociale et quelque part, ils s'en moquent. Parce qu'ils sont capables de vivre sans leur peuple. C'est un pays pétrolier. Et c'est pourquoi les sanctions de Donald Trump étaient salutaires aux yeux des Iraniens, étaient salvatrices aux yeux des Iraniens, tout simplement parce qu'ils trouvaient que ce régime est devenu complètement indépendant de son peuple. Et en absence des recettes pétrolières, ils auraient souhaité que le régime tombe. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que le régime est tombé, mais dans les mains des Chinois. Du coup, la situation a bouleversé complètement en défaveur des Iraniens. Et les sanctions américaines n'ont pas aidé les Iraniens à se libérer des ayatollahs.
Dans le contexte, il faut le rappeler, notamment du dossier du nucléaire iranien, ces sanctions sont explicables par d'autres raisons, mais essentiellement aussi à cause du nucléaire iranien. Il faudrait dire un mot, quand même, plus qu'un mot, de Narges Mohammadi, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est une militante des droits humains et journaliste, qui avait été libérée de prison en octobre dernier, qui a été à nouveau condamnée cette semaine à 80 coups de fouet et 30 mois de détention.
Narges Mohammadi est une journaliste et militante des droits de l'homme qui a été vraiment très maltraitée par la République islamique. Elle est devenue aujourd'hui, avec tant d'autres femmes, le symbole de la maltraitance de la République islamique sur les femmes. Dès qu'elles disent quelque chose, dès qu'elles protestent, elles sont enfermées, emprisonnées et fouettées. Elle est à elle seule, Narges Mohammadi, représente toute la population féminine en Iran.
Dont vous parlez dans le livre, Manaz, parce que vous nous dites qu'il y a une absence totale de solidarité des hommes envers les femmes.
Et c'est vrai que la République islamique a réussi à désolidariser les gens, à désolidariser les Iraniens entre eux, et surtout avec tous les avantages qu'au début ils ont donnés aux hommes dans les droits, dans les codes de la famille, à l'intérieur des relations hommes-femmes. Ils ont réussi, dès le début de leur arrivée, à désolidariser des hommes et des femmes. Et les femmes iraniennes se sont trouvées complètement seules. Elles sont seules face à un régime politique. Mais aujourd'hui, j'étais très contente de trouver que les jeunes hommes, les très jeunes, entre 20 et 30 ans, ils sont devenus très féministes, les hommes. Et ils sont en train de comprendre que la répression de la République islamique est passée par les femmes. Et donc, la voie royale pour sortir de cette répression, et c'est la liberté des femmes. Les très jeunes l'ont compris. Et ça, c'est vraiment une lueur de l'espoir dans cette situation extrêmement compliqué et noir.
Semaine d'actualité.
C'est un des événements majeurs de la semaine, vu de Paris en tout cas. Le président Emmanuel Macron a donc reconnu jeudi à Kigali les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda. Dans un discours très attendu où, sans présenter d'excuses, il a dit espérer le pardon des victimes, Amélie Tullet.
Les tueurs n'avaient pas le visage de la France, elle n'a pas été complice, déclare Emmanuel Macron, mais elle a le devoir de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance infligée aux Rwandais.
En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait alors une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire.
Une reconnaissance qui passe par le travail de mémoire et la justice, Emmanuel Macron appelle à l'ouverture de toutes les archives et s'engage à ce qu'aucune personne soupçonnée de génocide n'échappe au juge.
Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner.
Pas d'excuses directement présentées, mais lors de la conférence de presse qui suit le discours, le président rwandais Paul Kagame se montre satisfait.
This was a powerful speech.
Il s'agissait d'un discours puissant. Ces mots avaient une valeur plus importante que des excuses.
An apology.
Étape supplémentaire dans la normalisation des relations franco-rwandaises, Emmanuel Macron annonce la nomination prochaine d'un ambassadeur français à Kigali, un poste resté vacant depuis 2015.
La France et le monde suite. Cette fois, il s'agit de la France et d'Israël, l'ennemi juré de l'Iran, Manaz Chirali. Le risque d'apartheid est fort si on continue à aller dans une logique à un État ou du statu quo. C'est en ces termes que le ministre français des Affaires étrangères avait exprimé son inquiétude dimanche sur l'avenir de la solution à deux États pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Des propos qui n'ont pas plu aux autorités israéliennes. L'ambassadeur de France en Israël a été convoqué au ministère des Affaires étrangères ce jeudi à Jérusalem, Guilhem Deltaï.
Il a fallu 3 jours aux autorités israéliennes pour réagir, mais la réplique fut finalement double. Mercredi, Benjamin Netanyahou fut le premier à répondre. Le chef du gouvernement a dénoncé une leçon de morale hypocrite et mensongère sur cette question. Mais la réponse formelle est-elle venue ce jeudi? L'ambassadeur de France a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour une réprimande officielle. Ses commentaires étaient inacceptables, sans fondement, éloignés de la réalité. Israël les rejette totalement, a déclaré le chef de la diplomatie démocratie israélienne. Israël est un pays démocratique, respectant la loi, a poursuivi Gabi Ashkenazi, affirmant que son pays attendait de ses amis qu'il s'exprime de manière responsable. La réprimande intervient alors que la rue palestinienne voit-elle une évolution de la position française sous Emmanuel Macron qu'elle considère comme plus favorable à Israël. L'interdiction d'une manifestation pro-palestinienne à Paris lors de la dernière guerre a été perçue comme un soutien à Benjamin Netanyahou, mais en manifestant l'attachement de la France à la solution à deux États, le chef de la diplomatie française a utilisé, lui, l'un des mots les plus sensibles pour les dirigeants israéliens, apartheid. La critique était directe.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Manaz Chirali et nous parlons de son livre « Fenêtre sur l'Iran ». Je dois ajouter, Manaz, que la sœur d'un Français détenu depuis un an en Iran en a appelé au président Macron pour obtenir la libération de son frère, trentenaire, emprisonné sans fondement, dit-elle, est devenu selon elle un instrument de négociation qui la dépasse. Il s'agit de Blandine Brière qui décrit son frère comme un simple touriste français aujourd'hui accusé d'espionnage en Iran. Suite donc de cette émission, je voudrais que nous parlions, c'est fondamental dans un régime qui est, dites-vous, une idéocratie, une théocratie aussi. Je voudrais que nous parlions un instant des Iraniens que vous avez décryptés dans ces messages diffusés sur les réseaux sociaux. Les Iraniens et la religion, qu'en est-il aujourd'hui à travers ces messages?
Oui, c'est en fait République islamique a commencé par être une idéocratie et aujourd'hui il est devenu une véritable kleptocratie. Et dans cette transformation, les ayatollahs ont réussi largement à déreligionniser la société.
Ce qui est quand même un paradoxe fondamental.
C'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient au pouvoir, les Iraniens, ils ont vu de leurs propres yeux ce que c'est quand la religion gouverne. Et donc le résultat est tellement catastrophique que et aujourd'hui la société iranienne, en tout cas les nouvelles générations, sont complètement sorties de la religion. Et même sur les réseaux sociaux, blasphémer, insulter la religion est devenu une pratique courante qu'ils font tous les jours à la longueur de la journée. Et évidemment, ils pensent que la démocratie, à l'intérieur de la démocratie, dans un régime démocratique, personne n'a le droit d'avoir des sentiments religieux, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, de toute façon, c'est l'idée qu'ils se font de la démocratie. C'est la mort de la religion pour eux. Tellement, là, ils ont souffert, tellement les jeunes Iraniens sont traumatisés par les religieux, par la manière dont ils gouvernent. Et c'est tout à fait compréhensible. Quand vous souffrez de quelque chose, vous pensez que votre salut se trouve dans la libération totale de cette chose qui vous fait souffrir.
Donc, le meilleur moyen de créer des laïcs, c'est d'avoir un régime théocratique.
Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, il n'y a pas un pays moins musulman, moins islamisé que l'Iran. Et le jour où la République islamique part, on peut voir à quel point ils ont réussi à arracher les Iraniens de leur appartenance religieuse.
Mais la question qui se pose, c'est à propos de ces messages, Manaz, c'est est-ce que ces jeunes Iraniens, ceux qui vous ont envoyé ces messages, ont pu s'exprimer librement? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de décrypter ce qu'il dit?
C'est le miracle des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les identités sont complètement cachées et donc vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Mais il y a beaucoup d'internautes qui ont été arrêtés, qui sont actuellement en prison parce que leur identité a été dévoilée. Oui. Par leur faute, par exemple, parce qu'ils ont donné quelques informations sur leur vie personnelle et les cybersoldats les ont captés et ils ont découvert la vraie identité. C'est la chasse à la sorcière sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'une identité vraie soit dévoilée. Tout de suite après, la personne rencontre beaucoup de difficultés. Quelqu'un comme moi qui surfe sur Internet avec ma vraie identité avec mon nom, vous ne pouvez pas imaginer le nombre des lettres qu'ils ont envoyées à Sciences Po en disant que vous devez licencier Manaz Chirali.
Parce que vous enseignez à Sciences Po.
Oui, ouais. Et vous voyez, c'est incroyable la manière. Ou bien ils ont écrit à tous les journaux pour lesquels je fais mes articles en disant que vous n'avez pas le droit de publier les articles de Manaz Chirali. Et c'est très dangereux, quelque part, d'être sur les réseaux sociaux avec sa vraie identité, même se qui ne sont pas avec leur identité, eux aussi, ils risquent gros d'être emprisonnés en Iran. Il y en a beaucoup.
Alors, ce que l'on apprend également dans votre livre, on apprend beaucoup de choses, Mana, c'est que l'opposition n'existe pas. Il y a des oppositions très disparates et qui se font la guerre aussi.
Oui, en fait, opposition, c'est une structure qui appartient à une société moderne. Dans la mesure où la société iranienne n'est pas encore une société moderne, c'est une société en transition. Elle n'est plus traditionnelle, elle n'est plus encore moderne, c'est une société en transition. C'est tout à fait normal que une structure qui appartient à la modernité ne soit pas encore ancrée dans la société iranienne. Aujourd'hui, nous n'avons pas une vraie opposition dans le sens moderne du terme. On a des opposants extrêmement forts, extrêmement actifs et très nombreux, mais ce n'est pas encore une opposition. On attend, c'est une opposition pour être ancrée a besoin du temps. La société iranienne est au commencement du processus de la sortie de la religion, du processus de la modernité. Il faut lui donner le temps, mais les Iraniens sont impatients. Ils ne peuvent plus supporter ce régime.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Je salue, comme chaque samedi, quelques auditeurs fidèles sur le continent africain. Bonjour aujourd'hui à Charmoc Lavardin qui nous écoute à Brazzaville, à Jospin à Yaoundé, à Odilon à Madagascar. Un salut à Barry Madiou Barry à Conakry, à Issa à Niamey, à Rougiyatou, auditrice fidèle à Dakar. Un salut également à Sireli qui vit aussi dans la capitale du Sénégal. Salutations également à Flori à Kinshasa et à Daniel à Goma, que je salue, ainsi que tous nos auditeurs de la ville et de la région, en leur souhaitant bon courage. Nous sommes avec vous, nous nous rendrons dans la ville dans un instant.
Une semaine d'actualité.
Et partons donc pour le Mali. Arrêté lundi, le président de transition et son premier ministre ont été libérés dans la nuit de mercredi à jeudi. Comment ont-ils été arrêtés? Comment et où s'est passée leur détention? Correspondance de Serge Daniel à Bamako.
C'est le président de transition qui a été le premier arrêté ce lundi. Ensuite, les hommes du colonel Assimi Goïta qui menait l'opération se sont arrêtés chez le premier ministre Mokhtar Wan, voisin de Bandao. Il est à son tour arrêté. Les deux têtes de l'exécutif sont dans le même convoi qui prend la direction de la ville garnison de Kati, située à 15 km de Bamako. Arrivés sur place, leurs chauffeurs et gardes reçoivent un ordre ferme. Repartez chez vous. À Kati, Bandao et Mokhtar Wan sont tout de suite séparés. Leurs téléphones confisqués. L'un des deux est enfermé à double tour dans un bureau. Les deux hommes n'ont pas subi de traitement physique dégradant, pas de brimade. Ils avaient droit à la lecture, mais à un moment, l'une des deux personnalités n'avait plus la notion du temps, pas de montre, pas de réveil. Ils étaient gardés par des jeunes militaires, certains les encourageaient à démissionner. Et le mercredi, dans la matinée, lorsqu'une délégation internationale devait aller leur rendre visite, ils ont été regroupés peu avant. Le président Bandao avait déjà signé sa lettre de démission.
Et plus que jamais, le colonel Assimi Goïta est l'homme fort du pouvoir, souligné cette semaine Serge Daniel. La situation au Mali notamment est à suivre dans nos journaux. Partons maintenant pour la République démocratique du Congo, pour Goma donc, après la nouvelle éruption du volcan Nyiragongo et ses coulées de lave qui ont menacé la ville dimanche. Les habitants s'inquiètent des centaines de tremblements par jour qui secouent la ville depuis dimanche, mais aussi du risque de tomber dans la pauvreté. Reportage mardi de notre envoyé spécial à Goma, William Bassimike.
Alexis Safari est revendeur de cartes d'appel prépayées. téléphone en main, il est assis sous son parapluie sur une route du quartier Birere.
Je n'ai plus peur des tremblements parce que j'ai faim. Si j'attends et que je croise les bras à cause des secousses, je n'aurai pas à manger. Les clients viennent ici et lorsque la terre tremble, ils courent et reviennent après. Nous ne savons pas si ça va prendre fin.
Pourtant, dans un autre quartier, Katindo, Béatrice Mahamba, une ménagère, a peur des secousses après l'écroulement d'une maison voisine qui a occasionné 6 blessés graves mardi. Elle a changé de maison.
Regardez vous-même comme les murs de ma maison sont fissurés. Personne ne peut plus vivre ici. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé cette grande maison en dur pour nous abriter dans la cabane en bois. Auparavant, c'était notre cuisine. Je vis ici avec mes 4 fils, mon mari et notre bonne.
Premier étage, peut-être c'est mieux.
Les hôtels des Goma ne sont pas épargnés. Nombreux affirment avoir perdu 80% de leur clientèle, un manque à gagner selon Eli Imani, agent de réception de l'hôtel Bakanja dans les quartiers Les Volcans.
Les clients ont peur. Maintenant, ils ont tendance de quitter les chambres qui se trouvent à l'étage. Ils veulent les chambres au premier niveau. Nous sommes un peu pénalisés. Nous espérons que ça va aller mieux.
Dans différents messages, l'Observatoire volcanologique des Goma a appelé les habitants à la prudence et surtout à apprendre à vivre avec les volcans.
Et dans un exode soudain, des dizaines de milliers de personnes ont fui Goma après un ordre d'évacuation lancé jeudi face au risque d'une nouvelle éruption. À suivre également dans nos journaux. Dernière étape de notre voyage africain pour cette semaine, le Tigré, province du nord de l'Éthiopie, en proie, on le sait, aux violences depuis le mois de novembre dernier. Face à l'ancien pouvoir tigréen du TPLF, les forces fédérales sont épaulées par l'armée érythréenne, mais également les milices Amara. Ce groupe ethnique a pris le contrôle d'une partie du territoire, notamment l'ouest et la pointe sud du Tigré, des régions revendiquées depuis des décennies par les deux communautés. Notre envoyé spécial Sébastien Nemeth a pu se rendre au sud, à Alamata, localité désormais sous contrôle Amara.
Dans les rues d'Alamata, des barrages sont désormais installés en divers endroits de la ville. Ils sont tenus par les forces Amara qui revendiquent la pointe sud du Tigré. Boytou Maïlé est enseignant, cette situation le désole.
Ça me rend triste de voir le Tigré amputé. J'ai l'impression d'avoir perdu mon identité. Je ne sais plus qui je suis et si j'ai un conflit avec un Amara, on ne me donnera jamais raison, uniquement parce que je suis tigréen.
Les habitants affirment que les fonctionnaires tigréens ont été remplacés par des Amara. Elias confie avoir même dû faire changer ses papiers d'identité.
Lorsqu'on est contrôlé avec une carte d'identité tigréenne, les autorités nous demandent pourquoi on ne prend pas des papiers Amara. À chaque fois, il y avait des tracasseries. Donc, comme je suis fonctionnaire, je n'ai pas eu le choix. Pour éviter les problèmes avec les forces Amara, j'ai dû faire modifier ma carte.
Dans les hauteurs de la ville, un nouveau panneau indique désormais où commence la zone Amara. Saleh Koubé vit dans une maison juste en face. Il a du mal à accepter la situation.
Ça a toujours été et ce sera toujours un territoire tigréen. Si les Amara viennent, nous nous battrons. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous défendrons notre terre.
Les habitants disent avoir peur d'une arrivée massive d'Amara pour les chasser de la région. Dans l'ouest du Tigré, des milliers de gens ont déjà fui leur maison pour se réfugier dans des camps de déplacés du centre de la province.
À souligner aussi, car c'est important, qu'hier, vendredi, l'Allemagne a pour la première fois reconnu avoir commis un génocide contre les populations des Hereros et des Namas en Namibie pendant l'ère coloniale et va verser au pays plus d'un milliard d'euros d'aide au développement. On vous en parle dans nos journaux.
Une semaine d'actualité.
Et reparlons de l'Iran pour conclure ce numéro. Le guide de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, a donc recommandé jeudi aux Iraniens d'ignorer les appels au boycott de la présidentielle du 18 juin prochain. Il est ainsi resté sourd aux critiques sur l'invalidation des candidats au scrutin où les ultra-conservateurs apparaissent en position de force. On l'a vu tout à l'heure avec Ziavosh Ghazi. Écoutez cette fois l'analyse d'Azadeh Kian. Elle est iranienne et professeure de sociologie à l'Université de Paris.
on est face à un verrouillage complet, total du système politique et en fait à l'effacement de la composante républicaine de ce régime qui jusque-là tolérait tant bien que mal les factions internes au régime, c'est-à-dire des conservateurs modérés comme Rouhani ou encore des réformistes. Cette fois-ci, on constate que les jeux sont déjà faits et je pense que de toute façon, ce que demande Khamenei, c'est-à-dire la participation aux urnes, il sait pertinemment que ça ne sera pas le cas et je pense qu'ils ont en fait décidé d'exclure la légitimation de leur régime à travers les urnes. Ça, ils savent que le régime n'est plus légitime. Ils vont essayer juste de faire élire une personne voulue par le guide, proche du guide. Donc vraiment, il s'agit là d'un système autocratique à 100%, je dirais, sans maquillage de quelque institution représentative.
Propos recueilli par Nicolas Falaise, c'est également votre avis, Manaz Chirali. Vous dites qu'il faut boycotter ces élections. Ça a le mérite de la clarté.
Moi, je dis rien. Moi, je dis tout simplement ce que j'entends sur le terrain. Et je trouve que les Iraniens, ils ont eux-mêmes décidé de boycotter. Et ils n'ont pas attendu que les gens qui sont à l'étranger leur disent quoi que ce soit. Les Iraniens qui vivent dans les pays occidentaux, ils n'ont pas attendu que eux leur disent quoi que ce soit. Les Iraniens ont décidé dès le début de ne pas voter. On va voir. Ils ont dit qu'ils allaient boycotter, qu'ils n'allaient pas se rendre aux urnes. Et je pense qu'ils sont sérieux. Je n'avais jamais entendu aussi déterminés pour ne pas voter. Cela est devenu leur manière de montrer à la communauté internationale qu'ils ne supportent plus ce régime.
Mais ce régime est quand même à bout de souffle, non ?
Ça fait longtemps. Mais vous savez, je dis toujours, il n'y a pas plus solide que les régimes dictatoriaux. Parce qu'ils gouvernent par force. Ils étouffent leur peuple. Ils tuent et ils font peur et ils règnent par peur. Et c'est ainsi que la République islamique est tenue jusqu'à là et il va continuer à tenir, malheureusement.
La question qui se pose, Manaz, c'est de savoir quelles pourraient être les alternatives après la chute, un jour, de ce régime.
En fait, remplacer la République islamique n'est pas très difficile. Ils sont tellement incompétents. Ils ont mis le pays dans un tel chaos qu'il est très difficile de trouver aussi incompétent qu'eux. De toute façon, n'importe qui à leur place aurait fait mieux. Mais n'oublions pas que le peuple iranien est un peuple hautement éduqué. N'oublions pas qu'il y a...
Grande civilisation,
effectivement. C'est une grande civilisation. En plus, il y a eu 9 millions d'Iraniens qui vivent dans les pays démocratiques et ils sont hautement qualifiés. Il suffit de quelques-uns d'entre eux retourner en pays et de prendre les choses en main et on va sortir de cette situation de blocage total dans lequel vivent aujourd'hui les Iraniens.
Parce que maintenant, les alternatives se réduisent, si j'ose dire, au roi, enfin à Reza Pahlavi et aux Moudjahidines du peuple, non ?
Moudjahidines du peuple n'ont pas une assise populaire en Iran. Ils sont très détestés parmi les jeunes. Tantôt par leur faute, tantôt par les publicités négatives de la République islamique. On ne peut pas tout jeter sur eux. Mais quand même, ils ont fait des graves erreurs. Des graves erreurs. Et ils n'ont jamais voulu accepter les critiques. Mais vous savez, les Iraniens aujourd'hui ne cherchent pas à remplacer ce régime par telle ou telle personne. Ils disent, ils demandent un référendum national. Et à travers le référendum, ils vont choisir le mode de gouvernement qui leur convient. Et donc, c'est la démocratie comme partout dans le monde. C'est le vote populaire qui va choisir les dirigeants du pays. C'est aussi simple que ça. Il faut pas donc. Il y a des choses compliquées. Il y a des complexités énormes dans la situation iranienne. Mais pour remplacer le régime, je pense qu'il n'y a pas plus simple parce que c'est le référendum, c'est le choix du peuple qui va gouverner, qui va régner.
Et vous continuez à analyser les messages que vous recevez ?
Je suis devenue accro à Twitter et Instagram, donc je passe beaucoup d'heures dans la journée sur les réseaux sociaux.
C'est chronophage, comme on dit, effectivement.
Absolument, absolument.
Merci Manaz Chirali. Folie en votre livre qui s'intitule « Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné ». Il est publié aux éditions Les Pérégrines.
Merci à vous.
C'est ainsi que s'achève ce numéro d'une semaine d'actualité, réalisé comme tous les autres par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour un nouveau numéro du magazine Idées et nous parlerons de la compassion avec le grand et discret philosophe Paul Audy. Demain dimanche, 15h10 temps universel, 17h10 heure de Paris, donc la compassion à l'honneur. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.